des livres plein les oreilles. Bonjour amis lecteurs, allez ça y est, c'est le temps de lâcher vos casques d'écoute, à moins que vous vouliez écouter la radio et écouter Clotilde Sey qui anime pour vous avec ses invités du jour l'émission des livres plein les oreilles. Alors au programme, on va retrouver en seconde partie Rita Ezrati, ce n'est pas sa première participation à cette lectrice bénévole dont vous adorez la voix et comme je vous comprends. En seconde partie aussi, nous évoquerons la disparition de l'éditeur Gaëtan Lévesque, celui qui a fondé la maison d'édition XYZ. Je vous annoncerai notre invité de la semaine prochaine. On ne fera pas dans l'intellectuel, on fera dans le physique la semaine prochaine avec Courtoutoun de Geneviève Gagnon. J'ai rarement autant ri qu'en lisant les chroniques de Geneviève Gagnon sur la course à pied, aux larmes. Écoutez, c'est pas mêlant. Alors j'avais très très hâte de pouvoir recevoir Madame Gagnon. En première partie, nous allons retrouver dans quelques secondes Gérald Cousineau et ensuite, eh bien, je suis très très heureuse d'accueillir le copropriétaire, le nouveau copropriétaire de la librairie du Square, qui est aussi, même si ce n'est plus Françoise Carey, qui est à la tête de cette institution littéraire, qui nous fournissent encore les livres, tous les livres que vous recevez en version audio adaptée via le SQLA ou le CAEB à la Grande Bibliothèque. Alors, on y va tout de suite avec Gérald Cousineau. Gérald, cher Gérald, ça va bien?
Madame Clotilde, ça va très bien, merci.
Bon, j'aime toujours ça quand vous m'appelez Madame Clotilde. Je trouve que ça fait tenancière de enfin bon, bref.
Il n'y a pas de soumission.
Cher ami, j'ai très hâte que vous nous parliez de ce livre que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu grand bien et surtout j'ai lu beaucoup en faisant mes recherches et vraiment tout le monde s'entend pour dire que c'est un beau et grand bouquin. Parlez-nous de ce livre, d'abord son titre et son auteur, s'il vous plaît.
Oui, alors je parle de Hari Krishna, un livre que je ne connaissais pas, d'un auteur que je ne connaissais pas non plus, François Gilbert. En fait, c'est le troisième roman de François Gilbert et j'ai cru voir quelque part que ce roman était étiqueté roman jeunesse. Si c'est vrai, c'est un roman qu'un adulte peut très bien lire et en tirer profit. Donc, Hare Krishna, paru l'an dernier, en 2016, c'est pas un très gros livre, hein, à peu près 200 pages. Mm-hmm. Pour ceux qui vont l'écouter, c'est 4 heures d'écoute.
D'accord.
Donc, François Gilbert, on nous apprend que c'est un passionné de l'Asie. D'ailleurs, j'ai écouté un petit peu son deuxième roman. C'est vrai, il semble être très, très, très attiré par tout ce qui relève de l'Asie.
Okay.
Et je souligne tout de suite, avant de l'oublier, que le livre est très bien lu par un lecteur de Vues et Voix, Pierre Corriveau.
Oui.
Ce qui ne gâche rien.
Merci de le préciser, ça. Parce que souvent, bon, remarquez, quand les gens le précisent pas, peut-être que c'est parce que... Mais quand c'est bien lu, il faut le dire. Bravo, merci beaucoup,
oui,
Gérald.
Oui, il le fait bien et il va changer sa voix pour, selon les différents personnages.
Oui.
Il le fait bien.
Il le fait bien, c'est ça.
Il le fait bien.
Ah, superbe. Bon.
C'est un roman qui est raconté par le personnage principal. Le narrateur, c'est Michael Dionne, 16 ans, bientôt 17. Eh bien, ce Michael Dionne n'est pas très heureux chez lui, dans un petit village de la Beauce, pas très loin de Saint-Gérard, ou Saint-Georges-de-Beauce, plutôt. Il se drogue au grand désespoir de ses parents. Alors, il va tout quitter, école, famille, pour se retrouver à Montréal. Et là, il va rater un vol à l'étalage dans un dépanneur et va être comme récupéré par un dévot de Krishna qui va l'amener chez lui. Et là, de fil en aiguille, il va se retrouver dans le centre Hare Krishna, dans un centre Hare Krishna de Montréal. Donc, logé, nourri, bien sûr. Et là, c'est la transformation totale de ce jeune homme, quand même, 16 ans, transformé complètement. Et à l'occasion de la mort de son père, il va revenir chez lui. Et là, il y a un événement assez cocasse. Il n'est pas encore arrivé dans son village que la famille arrête un IW. Et qu'est-ce qu'on lui offre? Un hamburger. Lui qui, bien sûr, a renoncé à la viande. Alors, c'est amusant, je le signale. Et là,
sans compter qu'ils ne doivent pas s'attendre à voir revenir un gars au crâne crâne rasé.
Non, c'est ça. Alors, évidemment, il arrive au village, et là, qu'est-ce qu'on voit ce gars-là arriver, le crâne rasé. Il a juste une petite couette derrière la tête. Il a son habit de moine. Vous savez comment s'habillent les disciples d'Arachna. C'est très coloré, hein, très orangé. Donc, il est là, il a l'air d'un extraterrestre. Alors, son frère Eric, c'est l'aîné de la famille, il est plutôt agressif. Hein. Oui. Alors, sa mère est découragée, mais sa mère, elle, évidemment, naïve, pense qu'il est revenu à la maison, que tout va revenir comme d'habitude, avant. Qu'il va reprendre ses études à la polyvalente.
Non,
alors là, bien sûr, il va au salon funéraire, rencontre la parenté, évidemment, là, se fait regarder par tout le monde, mais quand même, il a consenti à s'habiller, disons, de façon plus normale. Et ça aussi, c'est à nouveau une scène assez cocasse. La famille est dans un magasin Simons enfin, les galeries de la capitale à Québec. Et là, évidemment, la vendeuse le reluque, hein, c'est assez prévisible. Et là, il va porter la chemise, l'habit et tout ça. Et l'auteur nous dit acheter à 70% de rabais. Il va jusqu'à ce détail. Grande vente. Alors, bien sûr, Michael a beau dire non, je veux rien de tout ça. N'empêche qu'il va se déguiser. Pour lui, c'est un vrai déguisement. Et il va aller au salon funéraire, mais n'empêche qu'il a le crâne rasé. Hein. Mais un peu après, ce sont les funérailles comme telles, et là, on constate que dans cette bonne famille québécoise, il y a évidemment des chicanes.
Oui. Alors, et l'une
ne parle pas à l'autre. Et moi, ça m'a rappelé la mienne.
Oh là là! Et là, en ce moment, là, il me semble entendre dans les foyers, enfin, moi aussi!
Ah oui, ça on n'est pas surpris, mais c'est amusant quand même. Donc, il y a les funérailles. Et là, étonnamment, après les funérailles, il est littéralement enfermé dans sa chambre, au vrai sens du mot, là. Parce qu'avant, quand il était chez lui, on avait carrément enlevé la porte de sa chambre, et là, on remet la porte à son insu, et on verrouille cette porte.
On ne veut pas qu'il sorte. C'est ça, on veut pas qu'il sorte, on veut plus qu'il retourne à Montréal.
Avec un bol pour faire pipi, puis débrouille-toi, on lui a même enlevé son fameux livre, la Bhagavad Gita, là. Oui. On lui enlève tout, sauf ses billes qui lui permettent de, attention, réciter 1728 fois par jour le mantra Hare Krishna. Bon, 1728, pas 1730, là, 1728 fois. Et ça, il le fait par terre, parce que non seulement il s'assoit par terre, mais il dort par terre, et quand arrive l'heure des repas, il mange avec ses mains, parce que c'est comme ça qu'on fait ça en Inde. Alors, la mère, vous comprenez?
Ah oui, non, c'est sûr.
Son frère lui en veut, et d'ailleurs, son frère va le battre, et d'anciens amis de son village vont le passer à tabac, littéralement.
Oui.
C'est incroyable.
Mais là,
c'est un traître.
Oui, c'est ça, mais excusez-moi de vous interrompre, moi, ce que j'entends, c'est que au-delà, je pense, de l'anecdote là, de ce jeune qui se ramasse enfermé dans cette secte, avant de se ramasser enfermé dans cette secte, l'enfermement, il le vivait déjà dans la famille, je pense. Hein.
Oui, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il l'a quitté, parce qu'il était très malheureux.
C'est ça.
Et d'ailleurs, les funérailles du père, je précise que le père est mort d'un cancer. Or, ce cancer-là, Michael s'en est senti coupable. Pourquoi? Parce qu'il se droguait au désespoir de son père. Donc, il revient vers ce père, revient vers cette mère. Mais lui, il se rend compte qu'il a franchi un pas trop grand. Il ne peut pas revenir en arrière. Parce que chez Simons, par exemple, il se rend compte, non, moi, je ne suis plus comme eux. Je ne partage plus les mêmes plaisirs. Et là, il y a des mantras ou des préceptes qui lui reviennent dans la tête et qui sont dans le roman. On sent bien qu'il est allé trop loin. Et quand sa mère lui dit qu'elle a arrangé tout pour qu'il revienne dans la polyvalente, non, maman, je vais en Inde à la fin du mois de janvier.
Okay.
Là, la coupure est nette.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
Ce que j'ai aimé, Clotilde, dans ce roman, très réaliste, hein, vraiment. Il y a une scène, entre autres, je l'ajoute pour ne pas l'oublier, il va voir sa grand-mère. Après les funérailles, il va voir la grand-mère, la résidence des personnes âgées, mais la grand-mère, incroyable, elle est complètement amorphe, elle a son dentier dans la main, et elle n'arrête pas de répéter « je veux mourir ».
C'est son mantra, elle.
C'est ça. Donc, il y a comme d'un mantra à l'autre. Et ce que j'ai bien aimé dans ce roman, donc, c'est que l'auteur n'a pas fait de Michael un personnage caricatural.
Ça aurait été tentant,
ça aurait été facile. Pas du tout. Non seulement il ne l'est pas, mais de toute évidence, Michael est un jeune homme très intelligent. Parce que ce qu'il dit, ben, ça a du sens. Tellement qu'on se rend compte que les valeurs des uns et ses valeurs à lui sont confrontées les unes aux autres. Et finalement, ça nous fait drôlement réfléchir, parce qu'on se demande, est-ce qu'au fond, c'est lui qui a choisi la bonne direction, qui a pris la bonne direction? Et ne serait-ce que pour ça, je pense que le roman vaut vraiment la peine d'être lu.
Ah, ça va jusque-là. On se demande, parce que je veux dire, je ne suis pas être la seule, je pense, à être terriblement agacée quand on m'accroche, là, puis qu'on me fait Hare Krishna. Non, enfin, en tout cas, c'est vrai. Hein, souvent, on a quand même un petit peu une. Oui. On ne trouve pas ça très agréable, quoi. Ah, oh, OK, en effet. Non, oui, je suis convaincue aussi. Dites-moi, mon ami, il a obtenu le prix du gouverneur général.
J'ai pu voir ça, prix du gouverneur général 2016.
Bon, mais certainement, oui, c'est ça, roman jeunesse. Exactement.
Mais cette confrontation vraiment est bonne, parce que Michael, lui, on sent qu'il a renoncé, d'ailleurs il le dit, il a renoncé à la popularité. Vous savez, ces émissions de télé qui sont des prétextes pour faire parvenir des vedettes, il n'est plus capable de supporter ça, alors que son frère Eric et sa mère s'alimentent de ça. Mmh. Il a renoncé, bien sûr, à la réussite scolaire, à l'argent, à l'apparence.
Mmh. Alors, oui, il renonce à tout, hein, c'est sûr.
C'est ça. Donc lui, il est vraiment dans un autre monde. Et à la fin, il y a comme un apaisement. On sent que la famille va accepter plus ou moins son cheminement, mm-hmm. mais comme un apaisement. Et on devine qu'il va revenir, bien sûr, à son centre. Mais rien n'est dit de façon expressément claire.
D'accord.
Mais on sent qu'il est allé trop loin, vraiment, pour revenir à son ancienne vie. Et lui, la polyvalente, le cégep, le travail, la maison de banlieue, la piscine, non.
Oui, non, c'est ça. Bah, d'ailleurs, à un moment donné, hein, il, si vous me permettez, un très, très court extrait,
oui.
Lorsqu'il revient pour inhumer son père, il écrit égoïstement « Ce n'était pas la mort de papa que je redoutais, mais bien la perspective de rentrer à la maison. »
Voilà.
Je n'avais qu'à imaginer l'école secondaire, la préparation pour le bal des finissants, mon prochain travail d'été, le temps perdu à me droguer, l'entrée au cégep pour ne plus vouloir retourner là-bas.
Mm-hmm.
Voilà, alors Hare Krishna de M. François Gilbert, prix du gouverneur général,
2016.
Voilà, 2016.
Un roman étonnant et vraiment, ça vaut la peine d'être lu.
Un roman de M. François Gilbert, comme ça se prononce, comme les deux prénoms François Gilbert. Cher ami, c'est toujours un bonheur de vous entendre.
Eh bien, à bientôt.
Oui, à bientôt. Si... Ah oui, parce que là, je vous ai donné une mission.
Oui. Lourde mission.
Lourde mission, et j'espère que tout va bien se passer. Croisons-nous les doigts, c'est que nous allons recevoir... en fait, ce sera au mois d'avril, mais ce sera diffusé en début mai, Monsieur Alain Lefebvre. Et Alain Lefebvre, le pianiste, il faut l'attraper, hein, parce que comme maintenant, il vit en Grèce, et quand il n'est pas en Grèce chez lui, il est en tournée. Alors l'agent, il va être à Montréal 3 jours. Et dans les 3 jours, il nous accorde un entretien avec son biographe. Alors je vous laisse le soin de lire ce livre pour venir nous en parler lorsqu'Alain Lefebvre sera en studio. D'accord ?
Ça sera un plaisir.
Cher ami, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.
Au plaisir, Clotilde.
Merci, Gérald. Gérald Cousineau. Il y a un petit peu plus d'un an maintenant, nous avons reçu à un moment donné une très mauvaise nouvelle et tout le monde a fait « Oh !» C'est lorsque Françoise Carey nous a appris qu'elle voulait vendre la librairie du Square. Là, tout le monde a fait « Mais non !» Et là, on s'est tous dit « Oh là 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 là, ils vont encore mettre une boulangerie là-dedans hein, !» Eh bien non, parce que la bonne nouvelle, c'est que très peu de temps après, on a appris qu'elle avait été rachetée par 2 fous maniaques de littérature. Et j'en accueille un des deux aujourd'hui. Jonathan, bonjour.
Bonjour.
D'ailleurs, je vous appelle toujours comme ça, mais c'est Jonathan Cacro-Vartabédian ou Bédian ?
Bédian.
Bédian.
Oui.
Jonathan, d'abord, merci d'avoir sauvé la librairie du Square avec Éric Simard, c'est son nom, donc, qui est le copropriétaire.
Tout à fait.
Je suis ravie de vous accueillir ici. Je voudrais dire que vous avez un lien encore très, 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 très ténu entre Vues et Voix et votre librairie, puisque vous avez continué aussi la tradition qui veut que c'est vous qui nous procurez les livres que nous enregistrons ici et chez les concurrents. Aussi d'ailleurs.
Oui.
Hein, voilà. Alors merci beaucoup pour ce geste-là. D'ailleurs, écoutez, il est arrivé là. C'était une vraie rockstar. tous les cadres ici se sont précipités. Jonathan est là. Alors ils étaient tous vraiment immensément contents. Jonathan, oui, nous aussi on l'est. Parce que la librairie du Square, c'est vrai que même si Françoise Carey disait oh, quand même pas à ce point-là, mais c'est vrai que c'était quand même et c'est toujours une institution à Montréal littéraire.
Ah ben oui, c'est fait partie de ces librairies qui, on croise les doigts, hein, on va faire
ça.
Pour que ça le soit encore, qui sont emblématiques à Montréal.
Qui est encore emblématique,
qui est emblématique
d'ailleurs,
oui.
Parce que ça, c'est ce que vous avez réussi. Maintenant, ça fait combien de temps que vous l'avez
racheté ? Ça va faire 2 ans.
Ça va faire 2 ans déjà.
Ça va faire 2 ans en juillet, là, ouais.
Et ça va très bien.
Ça va très, très bien.
Madame la marquise.
Oui.
Autrement dit, bon, alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez gardé, bon, toute la vieille garde de ceux qui venaient, évidemment, on pense tous à Michel Tremblay qui venait passer des heures là-dedans, Pierre Foglia, tout ça. Est-ce qu'ils viennent toujours, ceux-là?
Alors,
ou est-ce qu'ils étaient plus attachés à Françoise, finalement, qu'au bouquin? Je ne sais pas. Non,
non, ils sont toujours attachés au livre, donc oui, ils passent encore.
D'accord.
Non, Michel ne vient plus passer des heures et des heures traîner dans la librairie, mais il vient encore, oui, il passe encore régulièrement.
D'accord, d'accord.
Quand il est à, quand il est à Montréal.
D'accord.
Oui, ils viennent encore acheter leur livre chez nous.
Alors, vous êtes jeune, Jonathan. Non, mais je veux dire...
On peut dire ça.
Vous n'avez pas 80 ans, comme votre humble serviteur. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, vous êtes jeune. Éric aussi, Éric Simard aussi. Et tous les deux, vous êtes des passionnés de bouquins. Et moi, ça, je trouve ça fantastique parce que je sais que vous cherchiez. Et quand vous avez eu vent que celle-ci serait à vendre, vous avez fait ni une ni deux. Et vous avez dit, celle-là, on l'achète.
Ouais, parce que
c'est comme ça que ça s'est fait.
C'est comme ça que ça s'est fait parce qu'en fait, on avait développé le projet avec Eric de racheter une librairie.
Oui.
Enfin, au tout début, on voulait en ouvrir une ensemble. On s'est vite rendu compte que ce serait un peu bête de chercher à ouvrir une nouvelle librairie alors qu'il y en a déjà pas mal d'existantes, dont les propriétaires commencent à prendre un certain âge, donc à l'arrivée à la retraite.
Oui.
Et puis ça faisait un petit moment que Françoise lâchait le mot comme ça, qui voulait bien entendre que si elle avait été ouverte aux preneurs, elle ne dirait pas non. Donc c'est ça, on l'a abordé, puis ça s'est fait très simplement.
Ça s'est fait très simplement.
Très facilement.
Oui, oui. Et c'est toujours la même mission. La librairie conserve la même mission.
La même mission, défense de la littérature. On est vraiment spécialisé en littérature, théâtre, poésie. On s'est vraiment amusé à développer la poésie et le théâtre.
Ah oui.
Ouais. Parce que le théâtre est mon créneau. Mmh,
mmh.
Je venais du théâtre en France, donc j'ai servi beaucoup d'assiettes.
Oui, je n'en doute pas.
Voilà. Donc je suis revenu un peu à cet amour du théâtre en développant vraiment une section théâtre. Et puis la poésie, parce que mine de rien, la poésie, quand on en propose, les gens en lisent beaucoup. Et on vend beaucoup de poésie.
Écoutez, j'en parlais encore avec nul autre que Jean-Paul Daou assez récemment. Et puis je lui disais, mais est-ce que c'est juste une bourrasque de folie qui passe sur la poésie ou c'est un vent qui est là pour rester? Il m'a dit, je pense que c'est un vent qui est là pour rester. Alors vous pensez la même chose?
Je pense que c'est pour rester parce que là, quand je vois la nouvelle vague d'auteurs, jeunes auteurs...
C'est fou, hein? Ouais.
Qui font de la poésie. Je vais pas dire qu'ils réinventent la poésie, mais ils y vont vraiment avec des mots, une simplicité, des mots crus. On est plus dans une poésie de sentiments, de ressenti, d'une écriture. Je pense beaucoup aux éditions de L'Écrou qui font vraiment des recueils de poésie fabuleux une jeunesse québécoise, des jeunes auteurs québécois. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fabuleux.
Ah oui.
Ah ouais.
Alors, fou de livres vous êtes.
Oui.
Aussi bien vous, Jonathan, que Eric, avec qui vous avez acheté cette affaire-là. Vous en lisez beaucoup, mais très peu de best-sellers, finalement, parce que vous voulez avoir du temps pour lire des choses dont on parle peut-être moins, mais qui sont à découvrir. Et je vous ai demandé la tâche un petit peu délicate d'arriver avec des livres dont on a peut-être moins parlé, mais qui vous semblaient absolument fantastique à lire.
Oui.
Et bien sûr, nous avons vérifié que ces livres soient disponibles via ou SQLA ou le Caleb à la Grande Bibliothèque. Alors,
tout à fait.
Allez-y, avec quoi d'abord? On commence avec quoi?
Alors, je vais commencer avec... je vais commencer par le léger.
OK.
Quoique léger...
D'accord.
Ça s'appelle « Ressources inhumaines » de Frédéric Viguier.
Rien que le titre, « Ressources inhumaines ».
Oui, non, c'est... Ça démarre un peu caustique comme livre. C'est l'histoire d'une jeune femme de 22 ans qui se retrouve à... qui ne sait absolument pas ce qu'elle veut faire de sa vie et qui se retrouve à faire un stage dans un centre commercial. Et on la suit sur toute sa vie à gravir les échelons. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui n'aura jamais d'autre ambition de se retrouver comme commis, puis gérante de plancher dans un même centre commercial. Et C'est vraiment la guéguerre entre tous les employés.
Ah là là, oui.
À celui qui va réussir à gravir les échelons plus haut que l'autre, et puis les envieux, enfin, ça prend une proportion assez dingue. Ça finit par devenir assez acerbe et très acide.
Oui.
Comme propos. Parce
et
que
sûrement très vrai aussi.
Assez vrai, oui. Oui, oui, s'il y a quelque
parce
chose.
Parce que je suis convaincue que c'est comme ça que ça se passe.
Non, non, c'est oui, c'est. Comment dire J'en perds mes mots.
Je vous laisse aller. Non, mais c'est bien correct. C'est parce que moi, ce que je sens, là, d'après ce que vous dites, c'est que de toute façon, on sait que dans des groupes comme ça, ça se tiraille. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est... Il n'y a pas que dans le show business, quoi. Voilà.
C'est
dans la vie de tous les jours, puis c'est ce que ça raconte.
C'est justement, plus les milieux petits, plus on a l'impression que c'est des gens qui n'ont pas spécialement ambition, plus ça tire dans les pattes.
Monsieur
absolument.
Viguier, c'est un Français, Frédéric
oui,
Viguier.
Oui, c'est un Français et il vient. Je sais qu'il a écrit quelques textes de théâtre à l'origine Ressources inhumaines est son premier roman.
D'accord. Et c'est disponible, je vous le dis.
Oui, et c'était vraiment une vraiment belle découverte. Voilà, il vient d'en sortir un nouveau roman. J'ai pas le titre avec moi là, mais je me pressais de mettre le nez dedans.
Voilà, et qui doit pas être disponible anyway. Alors
on en parlera pas.
Pour
d'accord.
Vous vouliez nous parler d'un c'est le deuxième, un univers peut-être, oui.
Oui.
L'univers d'une auteure
montréalaise.
Je ne connaissais pas, mais bon.
Montréalaise d'origine japonaise qui s'appelle Aki Shimazaki.
Oui.
Aki Shimazaki, depuis quelques années, elle publie un livre par an. C'est toujours des petits livres d'une centaine de pages. Et elle y va par cycle d'histoire. Et tous ces livres sont construits, c'est sur 5 livres. Ça raconte ça raconte vraiment un cycle au complet. Et dont son premier, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur, qui s'appelle Le poids des secrets. Ça parle de l'histoire d'une famille japonaise pendant la guerre. Ça commence pendant la guerre et en fait chaque livre va raconter l'histoire de la vie d'un des membres de la famille. Naturellement il y a les secrets familiaux comme toujours et en fait on découvre au fur et à mesure le puzzle se reconstruit en lisant l'histoire de chaque personne. C'est l'histoire. On se prend au jeu, ça marche vraiment. Ce qui est fort, ce qui est beau avec Shimazaki, c'est son écriture. C'est une écriture d'une simplicité, d'une subtilité.
Très dépouillée.
Extrêmement dépouillée. C'est vraiment des mots simples, des phrases. La construction de la phrase, on ne part pas dans un espèce de lyrisme.
Non,
loin de là,
tout.
Au contraire, c'est qu'elle arrive à faire ressortir tout l'univers japonais.
Ok, oui.
Toute la pudeur japonaise, toute la beauté, la poésie en fait japonaise, en très peu de mots, des choses très, c'est d'une délicatesse, c'est fabuleux.
Ça ressemble au Japon, quoi. C'est parce que quand on pense à un intérieur japonais, là, on peut pas penser à un intérieur avec plein de bébelles partout. Là, tu sais, c'est quand même.
On est à l'inverse du russe. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très dépouillé. Et chose importante aussi à savoir avec Shimazaki, c'est que c'est auteur japonaise, oui, mais elle vit à Montréal depuis beaucoup d'années. Et tous les livres sont écrits en français. Ce ne sont pas des traductions.
Donc c'est elle qui les rédige. Hein.
C'est elle qui les rédige. Fait qu'en fait, c'est ça. La pudeur du sentiment passe vraiment, est vraiment transcrite en direct.
Et je voudrais épeler Shimazaki pour les gens qui nous entendent. C'est S-H-A-M-A-Z-A-K-I.
S-H-I-M-A-Z-A-K-I.
C'est Shimazaki. D'accord. Donc S-H-I-M-A-Z-A-K-I. Voilà, Shimazaki. Et puis, vous avez un troisième coup de cœur. Ça, vous m'avez dit ça, il faut lire ça.
Ouais,
à tout prix.
Ça, il faut.
C'est pas facile, mais.
Non, c'est une lecture exigeante. Mm-hmm. C'est une lecture renversante et bouleversante. Mm-hmm. Ça s'appelle Je suis en vie et tu ne m'entends pas, de Daniel Arsan. Et ça se passe après la Seconde Guerre mondiale et ça nous raconte le parcours de la vie d'un homme qui a fait les camps de concentration parce qu'il est homosexuel. Et donc c'est toute sa culpabilité, en fait tout le livre raconte vraiment la culpabilité de cet homme de survivant. Et réapprendre à vivre alors qu'on a fait les camps
ouais.
et qu'on est marqué à vie.
Ouais.
Parce que c'est un Allemand qui sort des camps, mais qui
Oui, je comprends tout à fait. Bah, surtout qu'on a, on a tellement parlé, et une chance qu'on en ait parlé, bon, évidemment, de ces nombreux Juifs qui ont été tués, communistes, gitans, ziganes. On le sait un petit peu moins pour les homosexuels.
Oui, oui, bah c'est ça. C'était
et pourtant, le triangle, bah, oui, c'est...
le triangle rose. Et puis,
oui, bah, c'est
voilà,
ça.
C'est pas le triangle rose.
Ouais.
Y en a eu énormément.
Ouais.
Et c'est ça, en fait. Et en fait, on suit vraiment le parcours de cet homme qui, sur toute sa vie, ce qui est dingue aussi, c'est pareil. C'est, je suis très attaché aux écritures.
Ah oui.
J'aime vraiment les écritures.
Ouais.
Avec Arsan, c'est vraiment une écriture morcelée. C'est quelque chose de. Ce qui est dingue, il arrive à faire ressortir tout l'état d'âme du personnage dans son parcours de vie. Et c'est ça. C'est...
Mais j'imagine que c'est une lecture un petit peu difficile. Ça ne doit pas être évident. On est dans les camps avec tout ce que ça peut supposer.
On est après les camps, mais on est dans le même poids que
ouais,
si on y était
ça,
encore.
Oui,
ça, c'est quelque chose. Non, c'est pas un livre léger, mais c'est un livre fort.
Alors, Arsand, ça s'écrit A-R-S-A-N-D.
Oui.
Et vous nous rappelez le titre, s'il vous plaît, Jonathan.
Je suis en vie et tu ne m'entends pas.
Beau titre en plus. Hein. Ça, c'est le genre de livre hein, exactement qui sortent de chez vous.
Ouais.
Et parce que vous avez une clientèle à la librairie du Square, Jonathan, au témoin d'un doute, mais justement qui aime sortir des sentiers battus. Ils savent que s'ils veulent acheter un best-seller, c'est pas là qu'ils vont aller.
Non, on est vraiment une librairie de conseils.
De conseils.
Voilà, on discute énormément avec nos clients sont vraiment des habitués qui on connaît leur goût, on sait ce qu'ils aiment.
Ok.
On sait.
À ce point-là.
Hein. Ah oui, mais c'est en fait, mine de rien, au début, ça me semblait énorme, mais tu te rends compte facilement que les clients, quand ils viennent, on se rappelle de ce qu'ils ont lu la dernière fois, on se rappelle de ce qu'on leur a conseillé, ils ont parlé. Fait que c'est ça. C'est tout. En fait, on a établi une discussion sur du long terme avec des clients et on échange autour de livres et puis on leur conseille beaucoup.
Ouais. Et ça va jusqu'à lui dire non, regarde ça, là, prends pas ça, c'est pas pour toi, tu vas détester ça.
Oh oui. Oh oui. Ah bah oui.
Et s'il le prend quand même, au moins il peut pas vous en vouloir.
Ah mais non, mais en même temps, s'il le prend quand même, moi ce que j'aime leur dire aux clients, c'est s'il vous plaît, si vous n'aimez pas ça,
ouais.
Venez me le dire.
Oui. On vous l'échangera, non.
Il y a un ou deux titres où je suis tellement sûr de moi que je leur fais le coup, oui. On y va vraiment toute confiance. Et puis en plus, ils nous font confiance. Donc c'est fabuleux.
Mais c'est. Pardon, la fille qui donne un gros coup dans le micro. C'est vraiment ce qu'on attendait d'un libraire hein, depuis toujours. Mais c'est agréable de savoir qu'en 2017, il y en a encore des comme ça.
Ben, il y en a encore et puis on est là pour durer.
Alors, la librairie du Square, rachetée à Françoise Carré par Jonathan Cacro-Vartabédian et Éric Simard. Alors, c'était Jonathan qu'on accueillait aujourd'hui. Jonathan, merci beaucoup aussi pour ces recommandations de lecture. Je sais pas, on pourrait peut-être s'organiser pour en faire une habitude. Moi, je dis ça comme ça.
Ben, on s'en reparle.
On s'en reparle. Passez une belle fin de journée.
Merci. Toi aussi.
Des livres plein les oreilles. La suite. Elle est là en studio, tout sourire. Rita Ezrati, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Fidèle parmi les fidèles.
Ça
fait combien d'années maintenant que vous faites du bénévolat, vous, ici, en lecture ?
Ça doit faire... ça fait 12 ans.
12 ans ?
Je crois, oui.
Oh, vous en avez lu quelques-uns, alors.
Quelques-uns,
des bouquins, oui, quelques-uns, dit-elle, en toute humilité. Et là, aujourd'hui, vous nous amenez, et c'est quelque chose qui ne peut pas se refuser, même si on en a déjà parlé, mais pas de celui-ci, d'ailleurs, pas de ce livre-là. Mais quand on nous dit Kim Thuy, on dit bah oui. Elle est venue ici, elle a semé un grain de folie, littéralement, il y a 2 mois maintenant, ça avait été fantastique. Elle est venue nous présenter Vie. Mais vous faites un petit retour en arrière.
C'est ça. Moi, je viens vous parler de Mann.
Qui était donc le...
C'est son second, je pense.
Le second, hein, c'est ça, exactement.
Oui.
Il y avait eu Rue avant, il y avait Mann et puis Vie. C'est ça.
Ah non, je crois qu'il y a À toi avant.
Oui, il y avait À toi, mais ça, c'était plus épistolaire. Là, c'était comme... Alors, Mann.
Alors, Mann, d'abord, il faut savoir que ça veut dire parfaitement comblé, ou bien tous les vœux ont été exaucés. Ce qui amène Kim Thuy à nous dire qu'avec un nom comme ça, Je ne peux rien demander de plus, car mon nom m'impose cet état de satisfaction et, d'assouvissement. Contrairement à la Jeanne de Guy de Maupassant, qui rêvait de saisir tous les bonheurs de la vie à sa sortie du couvent, j'ai grandi sans rêver. Et ça, je crois que c'est tout le livre.
J'ai grandi sans rêver. Tout est là.
C'est ça. Et moi, ce qui me fascine d'abord, c'est chez Kim Thuy, c'est son écriture. C'est, d'ailleurs, ça rejoint Shimazaki,
oui,
je trouve, franchement, pourtant je l'ai lu. C'est simple, c'est presque sujet-verbe-complément. Et on se dit qu'on n'aurait pas pu le dire autrement,
non,
pratiquement.
C'est ça.
Et en plus, la structure, la façon dont c'est construit, c'est pas linéaire.
Non.
Elle nous raconte une histoire, évidemment. C'est pas chronologique. Et chaque... C'est pas des chapitres, c'est des cellules. C'est deux, trois pages. C'est vraiment un petit bijou. Petit bijou. Et l'écrin est aussi beau que le bijou. C'est vraiment... C'est un tout. C'est vraiment...
Ça lui ressemble, remarquez.
Oui, moi, c'est vrai, moi je l'ai vu seulement à la télévision, mais c'est vrai.
C'est une toute petite chose comme ça qui passe, qui est absolument délicieuse, et ça ressemble exactement à ce que vous venez de décrire. C'est vrai.
Et puis je trouve que la première page du livre résume en fait tout l'art de Kim Thuy. Peut-être je le lirai tout à l'heure.
Comme vous voulez.
C'est vraiment, on lit ça et. On ne sait pas ce qu'on va trouver dans le livre, mais on sait qu'on est déjà amoureux du livre. Et puis, elle a l'art de transmettre les émotions qu'elle ne sait même pas exprimer ou peut-être même pas ressentir. Elle s'aperçoit plus tard qu'elle a ressenti ça. Enfin, c'est ce qu'on ressent quand on lit. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort, hein, quand même. Parce qu'elle nous dit qu'elle avait grandi sans rêver, qu'elle n'a pas... ressenti ça, mais elle le dit après.
Oui.
Sur le coup, on a l'impression qu'elle n'a pas vécu
l'émotion.
C'est ça. Et que plus tard, maintenant qu'elle écrit, elle y revient. Que comme la vie a glissé sur elle, sans émotion, sans l'accrocher, sans. Que tout a glissé. On a l'impression, parce que de toute évidence, la vie a laissé des traces sur elle.
Oui, c'est
évident.
Clair. C'est clair.
Mais ça, moi, je trouve que c'est vraiment... Elle nous fait aimer... On sent qu'elle aime la langue, qu'elle aime le français. On sent qu'elle aime le vietnamien. Elle nous le fait découvrir. J'aime beaucoup l'idée de mettre en haut de la page un mot en vietnamien et ce que ça veut dire en français. Comme à la première page, « mais » ou « me », je ne sais pas, qui veut dire « mère » au pluriel. Et à chaque page, il y a un mot... Pas à chaque page, mais à chaque capsule, il y a un mot comme ça... Donc, on découvre, nous aussi, sa langue. Et on comprend aussi qu'elle aime le français. Sa mère était enseignante. Sa mère lui faisait lire Maupassant. Maupassant, qui était le seul livre qu'ils avaient pu, qui avait échappé à la saisie de tous les livres étrangers et qu'elle enterrait dans une boîte en métal au fond du jardin pour pas qu'on... Parce
incroyable,
que c'était illégal, c'était...
Ben oui, ce sont les Khmers qui avaient...
Avant de se coucher, maman remettait le livre au fond de sa boîte métallique et l'enterrait dans une cachette. C'était le plus grand des secrets, puisque les livres étrangers étaient bannis, surtout les romans, plus précisément la frivolité de la fiction. Donc elle a grandi avec ça, avec l'amour des mots. Et plus loin, elle nous parle d'un vieux monsieur qu'elle connaissait quand elle était plus jeune et qui lui lisait des pages du dictionnaire et qui lui présentait des mots qu'elle ne connaissait pas, comme « humé ». Elle ne savait pas ce que c'était ce mot « humé ». Alors, il lui présente un fruit, j'ai oublié lequel, pour qu'elle le hume.
Pour qu'elle le sente. Oui.
Voilà. Et alors, pour elle, maintenant, ce mot « humé » est lié à ce fruit-là.
Oui.
Et ce monsieur, bien sûr, on lui a confisqué son dictionnaire et il continue à... réciter les pages du dictionnaire qu'il connaît par cœur et on peut lui demander qu'est-ce que c'est que ce mot-là et dans sa tête il a le dictionnaire et il dit c'est merveilleux.
Ah oui, absolument.
On ne se rend pas compte en fait de la chance qu'on a d'avoir des livres. C'est fou.
Oui, il faut en avoir été privé pour s'en apercevoir.
C'est ça, pour savoir le trésor que c'est.
Oui, oui.
Et, quoi d'autre sur elle? Bon.
Sur Kim Thuy. Sur... Parce donc... que, alors, parce que là, est-ce que c'est... Bon, ce sont des petites cellules. Moi, je vous avouerai que c'est le seul que je n'ai pas lu.
Alors, elle nous raconte une histoire.
Voilà.
Elle nous raconte son histoire.
C'est la sienne.
C'est-à-dire son histoire, pas dans l'ordre chronologique, mais donc sa maman, pour préparer sa vieillesse ou sa mort à elle, sa maman, qui a eu toute une histoire aussi, la marie à un Vietnamien qui est venu chercher une épouse. Et ce Vietnamien, j'aime beaucoup comment elle dit ça. Ce Vietnamien qui deviendra son mari est un Vietnamien qui a vécu trop longtemps au Vietnam pour être véritablement Canadien, mais qui a vécu trop longtemps au Canada pour être encore Vietnamien. C'est-à-dire qu'il est assis entre deux chaises, qu'il a oublié qu'est-ce qu'il faut dire à la future belle-mère, est-ce qu'il faut l'appeler tante, oui. Est-ce qu'il faut l'appeler grande sœur. Il a oublié, il fait des bêtises. La mère et la marieuse ne comprennent pas ses intentions parce qu'il n'a plus les codes. Bon, finalement, ils vont se marier, elle va venir au Canada. Il a un restaurant qui n'est pas trop chouette. Elle va l'arranger, elle va inventer des recettes, elle va se souvenir des recettes de sa mère. Elle rencontre une copine, Julie, qui vraiment l'a fait exploser, l'a fait s'épanouir. Elles arrangent le restaurant qui va avoir donc ce nom, Man, et puis qui va avoir les beaux bols verts. Et elle va vraiment en faire un espèce de bijou. Mmh. Donc on a toute cette histoire. Ce restaurant va devenir assez célèbre, la Palanque. Et puis elle va aller à New York, elle va aller à Paris, etc. Il va y avoir quelque chose qui va se développer. Mais on sait vraiment par petites touches.
Oui, c'est ça.
Je trouve que moi, elle m'a fait penser beaucoup à Nina Berberova. C'est-à-dire, elle nous raconte des histoires par petites touches. Sur le coup, on n'a pas toute l'histoire. Moi, très souvent, je me dis, mais alors ça, c'est la mère, c'est la grand-mère, c'est qui celui-là? On revient en arrière. Ah oui, mais même si on ne revient pas en arrière, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Parce que la petite capsule est tellement belle que de toute façon, peu importe qui c'est bon.
Et puis ça sent bon. Hein. Ce sont des livres. Moi, ils s'en dégage un parfum.
Oui.
Ça sent la fleur d'oranger. Ça sent
le curcuma.
Le café vietnamien. Mmh. Moi, ça c'est d'envie. Quand elle parle du café vietnamien, ça dure 3 pages. Mmh. Et c'est un vrai poème en soi. Et les livres, c'est ça de Kim Thuy. Oui. Les couleurs et les parfums sont excessivement présents là-dedans.
Elle nous met beaucoup de recettes. Elle nous met beaucoup de recettes. Le pourquoi et le comment, on met ce... Elle fait à un moment donné une recette pour son mari où elle mélange l'arachide, évidemment j'ai oublié quoi, qui se trouve que dans le... Et cette recette, c'est une petite crêpe, c'est seulement dans le Vietnam du Sud qu'on fait ça. Et elle lui fait ça pour qu'il se souvienne du pays. Et lui, c'est vraiment un retour. Bien sûr, il ne se parle pas de façon émotive comme
non,
ça.
Non.
Mais elle sait, par son silence, par la qualité du silence, que c'est ça qu'il ressent et qu'elle a donné dans le mille.
Et de toute façon, comme elle nous l'avait dit lorsqu'elle était venue ici, et puis elle l'a souvent dit en entrevue, au Vietnam, on ne parle pas. Les émotions ne sont pas les bienvenues. Mm-hmm. Alors, il y a ça aussi. Vous savez, là, quand vous dites, sur le coup, elle ne les a pas vécues, mais c'est après, lorsqu'elle les écrit, qu'elle se met à les vivre. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'ici, elle se permet de les vivre. Alors qu'au Vietnam, on se permet pas ça. Mm-hmm. Et c'est très, très difficile pour communiquer, nous a-t-elle expliqué.
Oui.
Rita, je voudrais que vous vous prépariez. Généralement, en seconde partie, je lis toujours un extrait d'un livre dont nous avons parlé en première partie. Mm-hmm. Là, je vous avouerai que je ne savais pas avec quel titre allait arriver Jonathan. Alors, je n'ai pas d'extrait des livres dont il nous a parlé. Je voudrais qu'on reste dans l'univers de Kim Thuy avec quelques extraits de Man. Ça vous va?
Ah, très volontiers, oui. La première page. Maman et moi ne nous ressemblons pas. Elle est petite et moi, je suis grande. Elle a le teint foncé et moi, j'ai la peau des poupées françaises. Elle a un trou dans le mollet et moi, j'ai un trou dans le cœur. Ma première mère, celle qui m'a conçue et mise au monde, avait un trou dans la tête. Elle était une jeune adulte ou peut-être encore une fillette, car aucune femme vietnamienne n'aurait osé porter un enfant sans porter un jonc au doigt. Ma deuxième mère, celle qui m'accueillit dans un potager au milieu des plants d'okra, avait un trou dans la foi. Elle ne croyait plus aux gens, surtout quand ils parlaient. Alors, elle s'est retirée dans une paillote, loin des bras puissants du Mékong, pour réciter des prières en sanskrit. Ma troisième mère, celle qui m'a vu tenter mes premiers pas, est devenue maman, ma maman. Ce matin-là, elle a voulu ouvrir ses bras de nouveau. Alors, elle a ouvert les volets de sa chambre, qui, jusqu'à ce jour, était restée fermée. Au loin, dans la lumière chaude, elle m'a vue et je suis devenue sa fille. Elle m'a donné une seconde naissance en m'élevant dans une grande ville, un ailleurs anonyme, au fond d'une cour d'école, entourée d'enfants qui m'enviaient d'avoir une mère enseignante et marchande de bananes glacées. Un autre extrait sur Fuang. Il s'appelait Fuang. Maman le connaissait depuis qu'il jouait à la pétanque en lançant des sandales. Elle l'a remarqué parce qu'il manquait toujours son coup quand elle le croisait sur le chemin du retour de l'école. Ses coéquipiers disaient que maman lui portait malchance. Lui, il attendait sa chance, tous les jours à la même heure, même s'il ne savait pas encore ce qu'il attendait. Il a pu nommer précisément cette attente seulement quand il l'a vue arriver pour la première fois en anneau d'ail blanc, l'uniforme de sa nouvelle école, dont le nom brodé en bleu sur une étiquette était cousu entre son épaule et son sein gauche. Au loin, les pans de sa tunique soufflés par le vent la transformaient en un papillon au vol léger et à la destination inconnue. À partir de ce moment précis, il ne manquait plus aucune des sorties de classe de maman et la suivait de loin jusque chez elle. Il lui a adressé la parole pour la première fois longtemps après, quand le talon du soulier de maman s'est cassé, comme l'avaient prévu ses demi-frères et demi-sœurs. Il s'est précipité spontanément vers elle pour lui proposer ses sandales, avant de repartir avec le soulier au talon brisé. Il s'est étonné de constater les traces de scie dans le bois quand il a tenté de le réparer chez un cousin, fabricant de cercueils. Le lendemain, il l'attendait devant le bougainvillier qui adoucissait le métal sévère de la porte d'entrée de la maison du juge. Dès qu'il a vu maman franchir la première dalle de l'allée, il s'est penché pour déposer les souliers, dans le bon sens, sur le seuil. Afin de ne pas compromettre la réputation de maman, il s'est éloigné de quelques mètres. Elle les a enfilés avant de déposer à son tour, dans les traces de ses propres pieds, les sandales de Puang, celles qui lui avaient permis de continuer sa route vers la maison, sans se salir, sans s'arrêter, sans pleurer.
Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup Rita, qui nous amenait dans l'univers de Kim Thuy avec quelques extraits de Man que vous venez donc d'entendre. Et j'espère que ça va vous donner l'envie, vous aussi, de vous plonger dans cette littérature toute simple, hein, comme vous l'avez très bien dit Rita, mais ô combien chargée en émotions, riche, c'est ça exactement. Merci beaucoup Rita Ezrati. Merci. C'était il y a un peu plus de 2 semaines, vous en avez peut-être entendu parler, de la disparition de l'éditeur québécois Gaétan Lévesque. J'ai voulu vous en parler parce que dans le milieu de la littérature, Monsieur Lévesque a vraiment été quelqu'un de très, très, très important. Il a été le cofondateur des éditions XYZ. Il est parti trop tôt, il avait 69 ans. Un homme, mais ça je me réfère à un papier écrit dans Le Soleil il y a maintenant un peu plus de 2 semaines au moment de sa disparition. Un homme, oui, reconnu dans le milieu littéraire, aussi pour sa grande humanité. un homme de lettres hein, qui a succombé à un cancer. Gaston Bellemare, qui a longtemps travaillé avec Monsieur l'évêque au sein de l'Association nationale des éditeurs de livres, rappelle notamment et particulièrement la lutte qu'ils ont menée contre le projet de loi sur les droits d'auteur présenté en 2010 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper à l'époque. Alors, Gaëtan Lévesque a fondé les éditions XYZ en 1985, pour ceux qui se posent la question, avec un poète qui s'appelle Maurice Soudens. Alors, ils ont d'abord développé le créneau de la nouvelle littéraire, et ce qui est un genre que M. Lévesque a aidé à énormément à diffuser. Et la maison d'édition est également devenue créatrice de romans au fil des ans. Mais au départ, ils ont vraiment commencé par la nouvelle chez XYZ. C'est en 1994, avec Le Pavillon des Miroirs de Sergio Cocchis, que vous connaissez peut-être l'un et l'autre, en tout cas moi qui est un auteur que j'affectionne particulièrement. Cocchis a été publié sous la bannière XYZ et il a remporté le prix de l'Académie des Lettres du Québec, le Grand Prix du Livre de Montréal, le prix Québec-Paris et le prix des Jardins du Salon du Livre de Québec, un véritable best-seller à ce moment-là, avec Le Pavillon des Miroirs. Je suis allée vérifier, le Pavillon des Miroirs est un livre que nous avons ici en banque, que vous pouvez aller chercher à la Grande Bibliothèque via le SQLA ou le CAEB, je vous le rappelle, et c'est gratuit. Monsieur Cocchis, qui a connu une enfance assez tumultueuse, quand il était encore au Brésil, il a notamment été placé dans des maisons de redressement, à droite et à gauche. Mais bon, il a quand même réussi à poursuivre ses études. Et il me semble que si mon père était là, il me dirait oui, il les a poursuivis et il a réussi à les rattraper. Notamment, il est rentré aux Beaux-Arts. Il a même préparé ses examens d'entrée en médecine, mais il n'a pas poursuivi dans le domaine. Monsieur Cocchis, qui est un militant de gauche hein, et qui avait été à l'époque arrêté, l'État militaire l'avait accusé de crimes contre la sécurité nationale. Alors, il s'est enfui du Brésil pour se rendre en France. Et puis, il est devenu psychologue à l'hôpital psychiatrique. Ensuite, quand il est arrivé au Québec, il a été psychologue à l'hôpital psychiatrique de Gaspé, figurez-vous. Alors donc, c'est tout ça c'est qu'il nous raconte, M. Cocchis, dans Le Pavillon des Miroirs. Un livre qui avait donc été un des premiers, si ce n'est le premier, à être publié aux éditions XYZ. Un autre livre, alors hyper connu, qui a été publié par XYZ, c'est l'histoire de Pi, la fameuse histoire de Yann Martel, que, bon, est-il besoin? Non, je ne pense pas avoir besoin de vous raconter cette histoire de ce gamin qui en réchappe après que le bateau qui les emmenait des Indes en Angleterre avec sa famille et quasiment tout le zoo dont s'occupait du père. Donc, après que ce bateau ait été englouti, ce môme se retrouve sur un canot de sauvetage avec notamment un tigre. Alors bon, je vous en dis pas plus. J'ai les images du livre en tête, j'ai les images du film en tête parce que je trouve que pour une fois, voilà un film qui a été très très bien réalisé par rapport au bouquin. Ça aussi, c'est un livre à lire et à relire et c'est disponible donc via SQLA et via le CAEB. Pour en revenir à Monsieur Gaëtan Lévesque, il avait finalement vendu XYZ en 2009. Depuis 2009, ça appartient au groupe Urtubiz, HMH. Mais très vite, il s'est ennuyé, Gaëtan Lévesque. Alors, il s'est relancé dans l'aventure. Il avait créé cette fois-ci sa propre nouvelle maison d'édition qui s'appelle toujours Lévesque Éditeur. À l'époque, il disait « Oh, j'ai juste 60 ans et puis je suis en bonne santé. » Alors, il n'y a pas de problème. Mais voilà, 7 ans plus tard, il tombe malade. Et 2 ans plus tard, il en décède. Alors, j'avais juste envie de vous rappeler l'existence de M. Gaëtan Lévesque, aujourd'hui disparu. Et puis, cette belle histoire de cette maison d'édition XYZ qui a commencé notamment avec Sergio Cocchis et Yann Martel. Il y a des fois où on me dit « Oh, Claude, t'es un peu trop un tello. » Ah oui, un tello? Eh bien, je vous arrive avec Court Toutoune, mes chéris. C'est signé Geneviève Gagnon, Cour Toutoune, où il n'y en aura pas de miracle. J'ai tellement lu, mais ri en lisant ce bouquin avec des gros titres genre « Grouille avant que ça rouille », avec « Toutoune s'en va en guerre contre la cellulite »,« Le dépotoir à calories », « Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?»,« Bouée de l'eau en masse », mais « Bouée de l'eau », ça s'écrit « B-O-U-E-D-L-O » en masse. Et cette fille a une écriture, c'est une spontanée, comme on dit, et elle court maintenant avec son chien Pogo. Je souhaite que vous soyez en mesure de pouvoir voir les photos du chien, mais les photos, je ne sais pas quel est le photographe qui a fait ça, mais alors les photos sont absolument hallucinantes. Le chien, on a juste envie de le connaître. Alors, je retrouve cette... Je vais donc faire connaissance la semaine prochaine avec Geneviève Gagnon, qui va essayer de m'initier à la course à pied, qui va essayer de me faire acheter des espadrilles pour m'y mettre. Bonne chance, madame. Mais en attendant, je voudrais qu'on écoute la première capsule qu'elle avait fait diffuser en ligne, parce que c'est grâce à ça et au succès qu'elle a connu lorsqu'elle a diffusé ces capsules-là, qu'elle filmait elle-même, que du coup, elle en est venue même à écrire ce bouquin qui s'appelle « Cours Toutoune », qui fait référence à « Cours Toujours », une émission présentée à la télévision.
Bonjour! Bienvenue à « Cours Toutoune ». Oui, aujourd'hui, Toutoune court dans son coin de pays, dans la région de Disraeli, Beau Lac. Et c'est de toute beauté. Regardez, oh, on ne voit plus la vue. Comme vous savez déjà, l'équipe de Cours Toujours, l'émission de Dominique Arpin, d'où vient la parodie Cours Toutoune, ont tellement aimé mes parodies qu'ils ont décidé que je fasse partie de leur émission. J'en sais pas plus. Je vais vous tenir au courant. Mais tous ceux qui ont vu mes capsules de Cours Toutoune, puis qui ont liké, puis qui ont partagé, ben je vous en remercie. Parce que c'est grâce à vous. Regarde la vue. Regarde, c'est Pogo. Oui, je vais essayer de faire Cours Toutoune avec Pogo à l'émission. Et ceux qui pensent que c'est impossible de courir quand on est joufflu, bon, on peut être joufflu et en forme. Regarde la vue. Commence par 30 secondes courir, minute, 2 minutes de marche, 30 secondes courir, puis tu vas voir, c'est capotant. Sinon, ben Cours Toutoune, on continue à se tenir en forme. Puis, Toutoune, vous souhaite une maudite bonne journée, ainsi que Pogo. Bye tout le monde!
Alors, bye tout le monde, on la retrouve la semaine prochaine en direct sur Canal M à l'émission « Des livres plein les oreilles ». Allez, quelques titres en rafale, nouvellement enregistrés et surtout nouvellement disponibles à la Grande Bibliothèque en version adaptée, bien sûr. Tiens, ça, on va commencer par quelque chose d'assez facile à lire. Ça s'appelle « La petite couturière du Titanic ». C'est de Kate Alcott, si vous aimez. Par exemple, entendre parler du Titanic, mais d'une façon un petit peu différente de ce que nous avons vu sur un grand écran. Eh bien là, Madame Kate Alcott nous raconte l'histoire d'une jeune servante anglaise qui est venue à Cherbourg vivre de sa passion qui est la couture, mais la maison qui l'emploie la traite comme une domestique. Alors quand elle apprend qu'un paquebot qui se dirige vers les États-Unis va faire escale à Cherbourg, elle décide d'embarquer pour tenter l'aventure. Manque de peau, c'est ce même bateau-là qui va aller se fracasser contre l'iceberg que l'on sait, même si on ne l'a jamais vu, le Titanic non plus, mais en tout cas, donc, voilà ce que ça raconte. Je vous dis, un petit livre facile, peut-être, à emmener en vacances. Un gros livre, d'ailleurs, un gros roman, vous savez, bien juteux, là. Voilà, pour vous noyer dans... pas de la grande littérature, mais c'est sympa. Annie Ernaux, certainement la préférée de M. Foglia, dont il a été question un petit peu plus tôt, parce que c'était, et c'est encore, je pense, un habitué de la librairie du Square, hein, il vient encore à l'occasion. Mémoire de fille d'Annie Ernaux, le petit résumé, j'ai voulu l'oublier, cette fille, l'oublier vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir envie d'écrire sur elle, ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Et je n'y suis jamais parvenue. Elle nous replonge, Madame Ernaux, dans l'été 58, celui de sa première nuit avec un homme dans une colonie, la colonie de Hesse, dans l'Orne. Nuit dont l'onde de choc s'est propagée, nous dit-on ici, violemment dans son corps et sur son existence durant 2 années. Annie Ernaux, mémoire de fille. Je veux croire au soleil de Jacques Semelin, S-E-M-E-L-I-N, c'est la réalité quotidienne d'un non-voyant qui est d'un pays étranger. Alors quel est son rapport au monde, à la ville et à la nature, à la nécessité de se déplacer, d'utiliser des écrans tactiles, de traverser les rues, de reconnaître les gens? Invité à donner des cours au Québec, l'historien Jacques Semelin nous propose un récit de voyage d'un genre nouveau. C'est à la fois le sien, dans une ville dont il découvre tout, et le nôtre, dans la tête et dans le corps d'un non-voyant. Une écriture émouvante, souvent drôle, qui entraîne le lecteur dans ce que Borges appelait une expérience sensuelle et esthétique. Alors tous les sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, chaque sens est sollicité, de même que l'imaginaire pour inventer le réel. Quand on ne voit plus le soleil, il s'agit de croire qu'il existe et de s'en remettre à la confiance vitale. C'est un récit unique et universel, que celui de M. Jacques Semelin, Je veux croire au soleil. Voilà, c'est ainsi que ça s'achève, mes amis. Je voudrais remercier mes invités aujourd'hui, Gérald Cousineau, Rita Ezrati et bien sûr Jonathan Cacro-Vartabédian, qui est resté d'ailleurs avec nous de la librairie du Square sur la rue Saint-Denis, bien sûr à Montréal, si vous l'ignoriez, juste un peu au nord de Sherbrooke. Merci à mon équipe Martin Forgue et Jean-Sébastien Laliberté. C'était Clotilde Seille au micro de Canal M qui vous présentait des livres pleins les oreilles. Bonne lecture, mes amis. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi à midi et en reprise, quand vous voulez, sur nos ondes.